content, chers amis, d'être avec vous, content de vous souhaiter aussi joyeux Noël, de voir certains nombres de visages que moi je reconnais, d'autres que je ne reconnais pas. Bienvenue à vous. C'est courageux si vous êtes là pour la première fois et vous vous dites, mais qu'est-ce qu'ils font ces protestants et évangéliques? C'est nouveau pour moi, cela je comprends. À un moment donné, c'était aussi nouveau pour moi. Donc n'ayez pas peur à la fin aussi de poser des questions. Le but maintenant, c'est de vous aider à mieux comprendre ce qu'est la foi chrétienne et pourquoi nous célébrons ensemble Noël. Les pommes de terre, j'ai envie quand même de dire, ce sont des pommes de terre dauphinois avec une viande de porc, avec une belle salade, avec un dessert, etc. Donc, avec cela, je vous invite chaleureusement, si vous le souhaitez, restez manger quelque chose avec nous. On ne va pas poursuivre directement avec le repas. On va avoir un petit drink qu'on vous sert pour fêter Noël. Donc, ne soyez pas pressés de partir parce que vous ne restez pas pour le repas. On donne le temps qu'il faut pour boire un verre ensemble. Et puis, on va transformer la salle aussi en restaurant un peu plus tard. Donc, rendez-vous vers 12h45, je dirais, pour manger ensemble. Il y a sûrement d'autres choses que j'avais en tête, mais comme cela m'arrive de plus en plus, moi j'oublie tout. Mais heureusement, j'ai pas oublié ce que je vais quand même partager avec vous. J'ai envie de dire que Noël, c'est un moment, n'est-ce pas? Si on célèbre encore Noël aujourd'hui, au moins pour la plupart d'entre nous, c'est un moment pour donner et pour recevoir. J'espère que vous allez à la fois donner quelque chose. Si vous n'êtes pas d'enfant, je ne sais pas pourquoi les enfants ne sont pas contraints de donner aussi. Je pense que ce serait chouette pour les parents de recevoir de la part de leurs enfants. Mais ça, c'est un autre débat que je dois mener plus tard avec mes enfants. Donc, vous allez à la fois donner quelque chose et à la fois recevoir quelque chose. Est-ce que ce serait ce pourquoi on espérait, comme nous avons vu, pour ces magnifiques pulls de Noël, de Maïva et Muriel. C'est pas toujours le cas, il me semble. Je me rappelle toujours d'un cadeau déballé par ma belle-mère, offert par un membre de la famille, ce cadeau. Il faut savoir que du côté de ma famille, nous avons un système pour économiser de l'argent et donc nous faisons ce qu'on appelle le Secret Santa. C'est-à-dire que chacun, ou le Père Noël secret, je ne sais pas comment vous dites ça, chacun reçoit un seul cadeau, mais c'est un beau cadeau parce que tout le monde s'organise pour qu'une personne donne à quelqu'un d'autre au lieu de tout le monde doit acheter pour tout le monde. C'est chouette, mais donc du coup, il y a une certaine attente, n'est-ce pas, que ce seul cadeau que je vais recevoir serait quand même quelque chose qui vaut, qui donne plaisir. Alors moi, je me souviens de ma belle-mère qui recevait donc ce seul cadeau. Et la voici en train de déballer son cadeau devant tout le monde. Et c'était quoi? C'était pas exactement ceci, mais ça ressemble fort à ceci. C'était un boutoir de porte. Ce n'était, je peux, la moindre chose que nous pouvons dire, c'était pas à ça qu'elle avait espéré. Okay? Donc ça, c'est clair. Un point où ma belle-mère de, je sais pas, 65 ans était en larmes qu'elle pouvait pas comprendre pourquoi on l'avait offert un tel truc. Peut-être c'est un cadeau bien plus qu'on espérait. De l'argent, peut-être, si nous sommes honnêtes d'entre nous, parfois une belle somme d'argent, ça fait du bien. Ma mère, qui est aussi avec nous aujourd'hui, même si elle ne comprend pas tout à fait ce que je dis, ma mère a une fois reçu une lettre de remerciement de la part de son filleul, qui lui disait ceci, il y a bien longtemps maintenant. « Merci, ma reine, pour les 20 euros que tu m'as offert. L'autre marraine m'a offert 100 euros. » Donc c'est difficile, je comprends, donner et recevoir des cadeaux. Donc courage pour les jours à suivre, chers amis. Patience aussi si vous ne recevez pas ce que vous souhaitez. Avant de donner et de recevoir, c'est important de savoir pourquoi nous le faisons. Quel est le lien avec ça et Noël. C'est la saison, oui, c'est Noël, mais pourquoi Noël nous pousse dans ce sens-là? Est-ce que vous avez jamais posé la question? Et pour nous aider, j'ai choisi une phrase tirée de l'un des premiers disciples de Jésus-Christ, qui s'appelait Paul, l'apôtre Paul, qui lui résume l'essentiel de Noël pour nous. Et cela se trouve et sur l'écran dans un instant, je pense, et sur votre feuillet que vous avez reçu tout au début, en dessous où c'est marqué « culte de Noël », il y a donc ces paroles, cette phrase. « Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous soyez enrichis. » Donc tout d'abord, notons qu'il parle ici, l'apôtre Paul, de ceux qui connaissent quelque chose, car vous connaissez. Donc à Noël, avant de faire un geste amical, avant de démontrer l'amour aux uns et aux autres, en donnant quelque chose, d'après l'apôtre Paul, il faut connaître quelque chose. Car le message chrétien tourne autour de la venue de Jésus-Christ dans le monde. Et ce message-là est à connaître. Ce n'est pas que nous le connaissons de manière naturel. Vous voici, j'arrive dans ce bâtiment et de façon naturelle, maintenant je le connais. Non. Il faut parvenir à cette connaissance comme devait le faire l'apôtre Paul lui-même, celui qui écrit. Car lui, peut-être vous le savez, avant de devenir chrétien, lui, il persécutait l'Église de Jésus-Christ. Il ne comprenait pas la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Il voulait empêcher le message de Jésus-Christ d'être répandu. Et mon rôle, je pense, dans le temps qu'il nous reste, c'est de nous aider à prendre connaissance de ces faits autour de la venue de Jésus-Christ, afin de se laisser transformer par cette connaissance, comme cela était le cas pour l'apôtre Paul, comme cela peut encore être le cas pour chacun d'entre nous ici présents. Je vais me servir donc de cette phrase pour résumer, pour expliquer ce message aux uns et aux autres. Et pour illustrer les propos qui s'y trouvent, nous allons aussi faire un saut en arrière vers le récit que nous avons lu tantôt de l'évangile de Luc, l'un des quatre récits de la vie de Jésus, qui parle donc de la naissance de Jésus. Et c'est là où je veux commencer, car au début de ce récit de la naissance de Jésus, nous entendons parler de ce qui faisait la une à l'époque, dans les médias. Luc chapitre 2, verset 1, que vous avez sur l'écran, dit ceci. « En ce temps-là, parut un édite de César Auguste, ordonnant un recensement de toute la terre. » Et on voit verset 3, donc le verset c'est juste un nom qu'on utilise pour la phrase, donc le petit 3 c'est là ce qu'on désigne un verset. Verset 3, ce que cela impliquait pour ceux qui avaient sûrement d'autres plans à ce moment-là pour leurs vacances de Noël. Bien, ok, c'était pas Noël, mais vous voyez ce que je veux dire. Tous allaient se faire inscrire chacun dans sa ville. Parce qu'il y avait ce recensement. Oh non, ah non, 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 c'est un peu gênant, ça, n'est-ce pas? Moi, j'allais plutôt partir en Égypte pour mes vacances. Mais maintenant, je suis contraint de rentrer chez moi. Non! Ou, oh non, mais moi, d'accord, moi, je comptais prendre quelques jours pendant les fêtes en Galilée pour me séjourner auprès du lac là-bas. Mais maintenant, c'est gênant, je dois rester en ville. Ce recensement avait un but politique, sans doute pour renforcer l'image de grandeur de l'Empire romain de l'époque. Et on ignorait, sans doute, que ce recensement avait aussi un effet inattendu. qu'un jeune homme qui s'appelait Joseph était contraint par cet édit de monter de la Galilée pour se rendre en Judée, dans la ville de David, appelée Bethléem, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui, elle, était enceinte. Mais ce qui se passe ensuite à Bethléem changera définitivement l'histoire de l'humanité. Notre calendrier, encore d'aujourd'hui, en témoigne, n'est-ce pas? Car encore aujourd'hui, nous continuons à dire 2018, après la naissance de Jésus-Christ. Bien que certains essayent de proposer le terme « l'ère commune » pour éviter toute référence à Jésus, c'est bien la venue de Jésus, quoi qu'il en soit, qui reste le point de repère pour cette datation qu'ils utilisent pour définir cette ère commune. Donc, dans les années du pouvoir, à ce moment-là, la naissance de Jésus passe inaperçue. Qu'est-ce que la naissance d'un humble judéen né à Bethléem, qu'est-ce que cela a pour des empereurs romains? Les choses qui font la une à Noël 2018 ici à Bruxelles ne tourne pas non plus autour de la personne de Jésus-Christ. C'est clair, n'est-ce pas? Une nouvelle crise politique en Belgique qui nous préoccupe. La sortie de l'un des États membres de l'Union européenne. Des gilets jaunes qui se soucient de leur avenir. Des drones, peut-être vous avez entendu parler de ça, qui empêchent les voyageurs de prendre leur vol pour aller en vacances. Voici, entre autres, les préoccupations du jour. Mais puis-je vous dire qu'il ne reste pas moins que connaître la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, d'après l'apôtre Paul, est la chose la plus importante pour chacun d'entre nous. Peu importe les préoccupations du jour. Mais qu'est-ce que, donc, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, d'après ce verset de l'apôtre Paul qu'on peut remettre sur l'écran. Il y a deux mouvements qui sont présents dans cette phrase résumée. D'abord, il y a un mouvement de richesse vers la pauvreté, et ensuite, il y a un mouvement de pauvreté vers la richesse. Donc d'abord, voyons si vous voulez bien la richesse vers la pauvreté, ce qui est le trajet poursuivi par Jésus-Christ. Car oui, notre texte affirme, Jésus était riche, très riche. Comment est-ce qu'on le sait? Car comme affirme l'ange dans le récit de Luc, le chapitre 2, verset 11, que nous avons lu tantôt, avec les enfants, aujourd'hui à l'époque, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Donc pour reconnaître son importance, l'importance de ce bébé, il y a la gloire de Dieu qui resplendit, selon le verset 9, autour des bergers. Une sorte, si vous voulez, de lumière brillante qui les rend presque aveugles. L'enfant qui vient de naître, c'est celui que les Écritures du passé, y compris Ésaïe que nous avons lu, avaient promis. Dieu lui-même parmi les hommes, Emmanuel. Oui, oui, bien entendu, Jésus-Christ était riche. Mais voici, on touche le vrai drame de l'histoire de Noël, n'est-ce pas? Celui qui est Seigneur est né, selon le verset 7, dans une crèche. Bon, attendez, est-ce que nous l'avons bien lu? Une crèche? Réellement? Ça, hein? Même si nous sommes habitués parce que nous connaissons l'histoire de Noël, ça, chers amis, c'est pas normal. Ce n'est pas mignon non plus. C'est de là que les animaux mangeaient et buvaient. Le Dieu souverain, alors, tout puissant, le Seigneur, n'aurait-il pas pu mieux faire pour son fils unique qu'une mangeoire, une crèche? Était-il incapable de faire autrement pour finir? Ne pouvait-il pas libérer une place dans l'Hilton de Nazareth? Bien sûr que oui, il était riche. Mais voici notre Dieu. Il ne cherche pas un règne de pouvoir humain. Non, lui qui est riche, il s'est fait pauvre. Et ce n'est pas qu'il démarrait dans les circonstances humbles et qu'ensuite son histoire terminait avec une réussite brillante reconnue par tous comme étant le roi suprême de ce monde. Ce genre d'histoire, les médias aujourd'hui, ils aiment bien, n'est-ce pas? Quelqu'un de circonstances humbles qui gagne la loto, qui devient milliardaire. Oh, super pour cette personne. Peut-être que vous avez entendu que cette semaine, José Mourinho, l'entraîneur de Manchester United, oui, je suis un pauvre supporter de Manchester United depuis de longues années. Enfin, merci, je ne l'avais pas dit ça, mais il était viré cette semaine. José Mourinho commençait sa carrière humblement. Un joueur de foot lui-même, mais très médiocre. Pas connu, il devenait ensuite soigneur et traducteur pour d'autres entraîneurs. Mais ensuite, il poursuivait une carrière, nous pouvons quand même le dire, brillante en tant qu'entraîneur de foot, bien rémunéré. Apparemment, à Manchester, il logeait pendant 2 ans dans un hôtel aux frais du club de Manchester, car sa famille, à lui, restait à Londres dans la maison familiale et lui ne voulait pas déménager de là. La facture sortante de l'hôtel après ses 895 jours à l'hôtel était dans la région de plus de 540 000 livres sterling. Sans parler des 15 millions qu'il a reçus parce qu'il mettait à terme son contrat. La carrière de Jésus-Christ ne voyait pas une telle trajectoire. Sa carrière ne terminait pas dans le luxe, terminait plutôt dans l'opprobre, d'une mort sur une croix romaine, affaiblie, souffrante, abandonnée par ses amis, trahie par l'un de ses proches, condamnée par les autorités, méprisée par la foule, crachée dessus par des soldats. Effectivement, Jésus-Christ s'est fait pauvre. Alors pourquoi cela, chers amis? Et cela nous mène donc à ce deuxième mouvement, celui de la pauvreté vers la richesse. Verset 9 de notre texte, voilà. « Afin que par sa pauvreté, vous soyez enrichis. » Ce n'est pas que, économiquement parlant, nous sommes tous pauvre, peut-être c'est le cas pour certains d'entre nous. Mais quoi qu'il en soit, notre pauvreté se trouve ailleurs. Et pour illustrer cela, j'aimerais que nous observions les personnages étonnants qui figurent dans le récit de Luc chapitre 2, à savoir les bergers. Car au verset 8 du récit, la scène change, car au lieu de rester avec Joseph et Marie à Bethléem dans la crèche, le récit nous mène en dehors de la ville, dans la campagne, où il fait nuit. Des bergers s'y trouvaient. Ils passaient dans les champs, les veilles de la nuit pour garder le troupeau, le texte nous dit. Et il faut comprendre que les bergers de l'époque n'étaient pas super sympa avec cette image que nous avons aujourd'hui de ce que c'est un berger. Non, il s'agissait des personnes qui étaient vues avec un peu de méfiance même. Personnages un peu en dehors de la société, dans les marges de la société. Peu bavards, parfois réputés d'être dangereux, violents même, pour protéger leur troupeau. Mais c'est à eux, aux bergers, qu'apparaît l'ange du Seigneur, d'après le texte. On peut comprendre, quand cela arrive, qu'ils soient saisis d'une grande frayeur. Vous savez, dans la Bible, c'est la réponse habituelle. En fait, lorsqu'un homme ou une femme se trouve face à la gloire de Dieu, tel qu'il est, c'est de tomber par terre, effrayé. Ce n'est pas qu'ils ont vu Dieu lui-même, car voir Dieu, le Créateur, le Roi des cieux, dans toute sa pureté, est tout simplement trop difficile, chers amis, pour l'homme. La Bible nous dit que personne ne peut voir Dieu et vivre, car face à la pureté de Dieu, l'impureté de l'homme est trop évident. Non, ils n'ont pas vu Dieu, mais ils ont vu un petit aspect de la gloire de Dieu, et cela suffisait pour qu'ils soient effrayés. Si nous voyons Dieu dans toute sa pureté, ici, présent devant nous ce matin, ce serait la même réaction, vous savez, pour chacun d'entre nous. Non, ah, il est mignon le petit Jésus. Mais aie pitié de moi. Car d'après les propos du prophète Ésaïe, je suis un homme de lèvres impures. Nous sommes, voyez-vous, donc pauvres spirituellement parlant. Au lieu d'aimer Dieu et d'aimer notre prochain, nous avons préféré notre propre autorité que celui de Dieu. Nous avons trouvé plus de plaisir à nous mettre en premier. Nous sommes, d'après les récits bibliques, dans les ténèbres, ce qu'on appelle des pécheurs, comme les bergers, si vous voulez. Mais, chose étonnante, à la fin de ce récit, les bergers, à partir du verset 20, ils ne sont plus les mêmes. Que font-ils au verset 20? Ils glorifient et ils louent Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu. Pourquoi? Car ceux qui étaient pauvres spirituellement parlant, ils sont devenus riches. Mais qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a changé? Verset 10. Ne craignez point. Je vous annonce, dit l'ange, une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple un sujet d'une grande joie. Aujourd'hui, un sauveur vous est né. Car oui, à travers la pauvreté inouïe de Dieu lui-même, qui se fait homme, qui se fait pauvre, qui meurt sur une croix, vous pouvez devenir riche. Car Dieu vient pour nous sauver de notre pauvreté spirituelle. Le Seigneur lui-même devient pauvre. Il subit le juste jugement de Dieu qui devait tomber sur nous, afin que nous puissions être sauvés de ce jugement-là. Au lieu donc d'être saisis d'une grande frayeur face à Dieu, nous pouvons connaître la paix. La paix d'avoir nos péchés, notre rejet de Dieu pardonné. De pouvoir nous approcher de Dieu sans avoir la honte de notre état spirituel dévoilé. Si mon état naturel de péché se dévoilait devant vous ce matin, ici sur cet écran, vous serez choqués. Tout comme moi, je serais choqué de voir votre état spirituel dévoilé devant nous tous. Mais nous pouvons connaître la paix et le pardon. Parce que Jésus-Christ a pris la punition que mon état de pauvreté spirituelle méritait. Verset 14, qu'est-ce que la multitude de l'armée céleste disent? Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. Si vous voulez, cet échange de riches et pauvres, c'est un peu comme un mariage de deux personnes. Une personne qui est pauvre, l'autre qui est riche. La personne pauvre est endettée, en difficulté financière, poursuivie par la banque. L'autre personne, quant à elle, elle est riche. Elle a des fonds considérables, des investissements, des biens. Mais le mariage qui a lieu entre ces deux personnes, à Noël, sous-entend deux échanges, n'est-ce pas? Celui qui est riche assume la dette de l'autre. La dette de l'autre devient la sienne. Il l'assume. Mais l'autre échange, c'est que la richesse, ou ici la richesse de l'autre, devient la richesse de celui qui était pauvre. Cette personne-là, grâce au mariage, n'est plus endettée. Vous voyez cela? La richesse de Jésus-Christ devient la nôtre. Il procure pour nous la paix avec Dieu, le pardon de nos péchés. Notre pauvreté à nous devient la sienne. Il prend sur lui-même ce que notre péché méritait, le jugement de la part de Dieu. Et c'est bien ça. Donc, pour revenir vers notre verset dans 2 Corinthiens, c'est bien ça, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous savez, ça, c'est un cadeau précieux, immérité pour chacun d'entre nous. Peut-être vous vous dites, bon, c'est bien un tel cadeau pour des personnes qui méritent une telle chose, pour des chrétiens peut-être qui sont assidus à leur église. Mais honnêtement, moi, je ne suis qu'en visite comme ça de passage, ce n'est pas vraiment pour moi cela. Moi, je suis loin de tout cela. Mon péché, si cela se dévoile devant les autres ce matin, effectivement, est bien trop conséquent pour qu'un tel cadeau puisse être pour moi. Ben, si vous avez ce genre de pensée qui traverse l'esprit ce matin, j'aimerais vous rappeler que cette bonne nouvelle est d'abord annoncée aux bergers. Ceux dont les autres se méfiaient, ceux qui n'avaient leur place confortable au sein d'une église comme la nôtre. Non, Jésus, après tout, il n'est pas venu pour des bien portants, vous savez, mais pour des malades. Il n'est pas venu pour des justes, ceux qui sont tous fiers de leur appartenance à l'église locale. Non, il est venu pour des pécheurs. Et tout comme c'était possible pour les bergers cette nuit-là, il y a 2000 et quelques années, de rentrer chez eux après avoir vu Jésus glorifiant et louant Dieu, c'est aussi possible, vous savez, pour vous, peu importe votre arrière-plan, peu importe votre comportement du passé, de trouver la même joie et la même paix. De rentrer d'ici glorifiant et louant Dieu, car Jésus-Christ est venu dans le monde. C'est une bonne nouvelle. Oui, il faut souligner que cela implique un changement de direction pour chacun qui suit Jésus-Christ. Parce que c'est de commencer à vivre avec Jésus comme le Christ, le roi promis par Dieu. Et ça, ce n'est pas toujours facile. Il va y avoir des difficultés. Mais la connaissance de sa grâce envers nous nous permet de lui faire confiance pour la suite. Cette grâce transforme la vie. D'ailleurs, cette phrase-là que vous voyez ici sur l'écran se trouve dans un chapitre qui encourage les croyants d'une église à donner financièrement pour soutenir l'œuvre de Jésus-Christ. Ben, c'est difficile de faire ça, vous savez. Si nous sommes riches, ou bien sûr, si nous sommes pauvres, de donner quelque chose. Mais les chrétiens connaissent la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Et cela transforme la vie. Il y a connaître, vous savez, intellectuellement parlant. Peut-être maintenant, certains d'entre nous puissent dire, bah oui, ok, maintenant, je connais de manière intellectuelle certaines choses au sujet de la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais il y a aussi, chers amis, connaître dans mon propre expérience. Si on rebondit pour une dernière fois vers Luc chapitre 2, nous allons voir la réaction de Marie à tout ce qui s'est passé. Marie, la maman, verset 19, Marie gardait toutes ces choses. Elle les repassait dans son cœur. C'est-à-dire qu'elle réfléchissait là-dessus afin de devenir à son tour croyante en Jésus-Christ. Alors, que faut-il faire, chers amis, pour chacun d'entre nous, ici présents en conclusion? Il faut recevoir ce cadeau immérité. Il faut passer d'une connaissance formelle, intellectuelle, à une connaissance de notre propre expérience, de notre propre cœur, qui ne se limite pas à fréquenter, point de vue externe, une église comme celle-ci ou quoi que ce soit d'autre. Comme église, ce n'est pas le fait de devenir à l'église qui fait de nous des croyants. C'est la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ qui fait de nous des croyants. Comment est-ce que nous recevons cette grâce, peut-être vous vous demandez. Simplement par la foi. Qu'est-ce que la foi? C'est de se tourner vers Jésus-Christ dans la simplicité de notre cœur, s'appuyant sur ses promesses à nous en disant « Je reçois ce cadeau que je ne mérite pas. » Oui, je confesse qu'à Noël, il est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et ce sauveur devient dorénavant mon sauveur, mon Seigneur. Bah, je vais prier, chers amis, et cela, c'est une opportunité, une occasion pour vous de placer votre foi en celui qui était riche, qui pour vous est devenu pauvre. Prions ensemble. Seigneur, nous voulons te dire avec honnêteté, avec simplicité, avec courage, que nous sommes effectivement pauvres, spirituellement parlant. Mais toi, tu es riche. Et dans ta richesse, toi, tu es devenu pauvre. Un parcours qui est mené de la crèche à la croix pour nous procurer ce que nous n'avons jamais pu procurer par nous-mêmes. La paix avec toi, le pardon de nos péchés. Et nous te demandons de recevoir ce cadeau que tu nous offres, de bénéficier de ta richesse et dès ce moment-ci de te suivre comme notre propre roi. Donne-nous le courage de te suivre, quoi que les autres disent en ce qui te concerne, en ce qui nous concerne. Que nous puissions connaître dans notre propre expérience la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est au nom de Jésus que nous te prions ces choses. Amen.